affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la haine du juif. Quand est-elle née dans notre histoire? Pourquoi s'est-elle déployée dans le monde chrétien puis musulman? Comment a-t-elle changé de visage avec la modernité? Où subsiste-t-elle aujourd'hui? À droite comme à gauche, en Orient comme en Occident? Et peut-on vraiment espérer la voir disparaître un jour? Peut-être non. Pascal Horry répond à toutes ces questions dans un essai historique paru chez Bouquin. Il nous raconte une tragédie en trois actes qui touche aux ressorts les plus profonds de notre humanité. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour.
Alors Pascal Horry, vous êtes professeur émérite d'histoire à la Sorbonne. Vous avez été élu à l'Académie française en 2021. Vous venez de sortir deux livres chez Bouquin. Le premier, De la haine du juif, un essai historique. Et puis un recueil de textes, Ce côté obscur du peuple, qui rassemble une collection de textes. Un mot se trouve au cœur de ces deux livres, c'est le mot de tragédie qui semble vous habiter. C'est une réalité de notre humanité, la tragédie.
En tous les cas, c'est un regard qui tranche avec le regard spontanément optimiste qui a surgi à plusieurs reprises dans le destin de l'humanité, avec des connotations parfois religieuses, parfois au contraire complètement athées. Oui, la tragédie, je l'avais définie un jour en disant que c'est quand la solution est pire que le problème, mais que c'est la solution. C'est-à-dire que Roméo et Juliette se suicident pour rester ensemble dans l'amour. C'est une solution, évidemment. C'est une solution terrible. Or, vous avez l'équivalent collectif de ça. Vous avez des peuples qui ne résolvent leurs problèmes que par la guerre civile. Vous imaginez à quel prix. Il n'y a rien de pire que la guerre civile. C'est beaucoup plus grave qu'une guerre étrangère, etc., etc. Et on ne peut pas faire comme si ça ne jalonnait pas l'histoire, comme si ça ne marquait pas l'histoire de manière parfois indélébile. Il y a des destins de peuples qui sont entièrement marqués par ces tragédies, en effet. Alors, la tragédie, c'est un genre théâtral. Ça nous vient de la culture grecque. Et bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, la notion de catastrophe. Moi, j'aime bien quand même faire de l'étymologie avant même d'être élu à l'Académie française.
Pourquoi ?
Les Grecs considéraient que étymologie, ça voulait dire la science de la vérité. Alors, je ne sais pas si la vérité est dans l'étymologie, mais en tous les cas, elle nous aide à réfléchir. Il y aurait l'étymologie du mot tragédie, mais surtout du mot catastrophe. La catastrophe, ça fait partie de la tragédie grecque, c'est le dénouement. Le dénouement qui est souvent une sorte de surprise ou de revirement. C'est la catastrophe. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément drôle, en effet. Il y a des morts sur scène, morts symboliques ou morts réelles, mais c'est le dénouement. Donc je pense qu'à l'époque qui est la nôtre, on a retrouvé le sens de la catastrophe et du tragique. Alors, entre autres parce que ma thèse est que le XXe siècle a été le lieu de grandes utopies, au sens étymologique du terme, c'est pas du tout péjoratif, c'est d'ailleurs pas non plus amélioratif, mais enfin c'est comme ça, et que la plus grande utopie a été l'union des républiques socialistes soviétiques, donc fondée sur l'internationalisme. C'est un terme qui n'est pas géographique, hein, union des républiques socialistes soviétiques, le monde entier devrait devenir une URSS. Et cette utopie a duré 72 ans, c'est quand même quelque chose de fondamental, et elle a laissé des traces, puisque la Chine populaire aujourd'hui est encore dirigée par un parti communiste, etc. Il y a eu une autre utopie qui s'est développée, et d'ailleurs dialectiquement face au communisme et au bolchevisme, comme on l'appelait d'ailleurs étymologiquement, lui aussi, c'est le fascisme. Donc le XXe siècle a été un moment de grandes expérimentations politiques qui sont allées très loin. On a forgé le terme de totalitarisme pour les unifier. Alors je sais que le terme est discuté, mais à mon avis, on peut le défendre. Bref, le XXe siècle a été un lieu d'expérimentation politique impressionnant. Et je défends ici et là dans certains ouvrages, entre autres dans De la haine du juif, et aussi dans Ce côté obscur du peuple, l'idée paradoxale que la science expérimentale, on peut la retrouver même en histoire. Parce que l'histoire ne teste pas, mais l'histoire passe son temps à examiner des expériences. politique, économique, culturelle, et voit dans quelle mesure elle se développe ou pas. Ou pas. Et c'est très intéressant de voir que la Commune de Paris a duré 72 jours et l'Union soviétique 72 ans. Ce sont deux échelles d'expérimentation dont on va tirer des conclusions, d'ailleurs assez différentes, compte tenu de l'échelle, vous voyez, qui était aussi une échelle géographique, démographique, etc. Donc je pense que la tragédie est une notion qui avait été un peu mise à l'écart après les grandes expériences totalitaires, ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses. Moi, ce que j'ai appelé l'ère progressiste, qui a duré bon, effectivement une trentaine d'années, et pas simplement en France, hein, qui concerne l'ensemble de l'Occident et même d'ailleurs des pays de l'Est. Ben, cette ère progressiste a passé le relais à une ère libérale, dont le sommet a été la chute du mur de Berlin. Mais nous en sommes sortis aussi de cette ère libérale, c'est tout à fait clair. On ne peut pas dire que le phénomène des gilets jaunes ou de l'islamisme soit réductible à une référence libérale. Donc nous sommes dans une troisième époque qui, effectivement, me paraît assez tragique, en ce sens qu'elle rebat les cartes. Ce qui se passe en Ukraine, à l'heure actuelle, c'est très 19e siècle. C'est très 19e siècle. C'est-à-dire que la nation, j'avais consacré un gros livre à ça il y a quelques années, enfin 2020, la nation n'a jamais été aussi élevée. Elle est vraiment au pinacle, plus qu'au 19e même. C'est un acteur fondamental de l'histoire. La première parole de M. Poutine quand il envahit l'Ukraine, c'est de dire qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. Donc c'est très significatif. Et d'autre part, évidemment, la guerre, j'allais dire classique, impériale, voire impérialiste, manipulant éventuellement le nationalisme, c'est très 19e et c'est notre vie actuelle. Donc je pense que le terme tragique n'est pas abusif.
Alors nous allons justement parler d'une nation, ou plutôt d'un peuple. Vous direz peut-être quel mot vous semble le plus ajusté. C'est celui des Juifs. Et vous racontez comment ce peuple devient le peuple, comment les Judéens deviennent les Juifs. C'est le prologue de cette tragédie. Comment cette identité symbolique se constitue? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment de construction?
Alors, je parle de ce moment de construction, mais dans la perspective d'une réflexion sur ce que j'appelle la judéophobie. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à choisir ce terme. Et non pas l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme, ce n'est pas un terme qui me gêne, mais j'attends le 19e siècle pour l'utiliser. C'est complètement anachronique de parler d'antisémitisme avant le 19e siècle. Ce qu'il y a avant, c'est un anti-judaïsme, chrétien ou musulman. Et avant, qu'y a-t-il donc? Et c'est là le point important de ma thèse, qui peut provoquer d'ailleurs une polémique, parce que je sais bien qu'un certain nombre de personnes ne seraient pas d'accord, ne sont pas d'accord avec cette thèse, mais je la défends. À savoir que dans les sociétés polythéistes, donc avant l'apparition du christianisme, et j'allais dire dans sa continuité quelques siècles après de l'islam, qui est quand même très corrélé au judaïsme et au christianisme, on le sait, mais il faut toujours le rappeler, eh bien avant, vous avez un univers où, pour simplifier, à chaque peuple, petit p, hein, c'est pas encore le peuple avec un grand P, c'est-à-dire le peuple de la nation des temps modernes, à chaque peuple avec un petit p, sa religion. Et il se trouve que la religion de ceux qui deviennent insensiblement d'hébreu à juif, c'est le monothéisme. Mais c'est une erreur de penser que parce qu'ils sont monothéistes, ça les met en marge. C'est-à-dire que je lutte contre les erreurs de perspective qui consistent à dire mais il est évident qu'on a toujours quelque part détesté les juifs, regardez ce qui se passait à Alexandrie à l'époque hellénistique, regardez les Assyriens, etc. Mais non. Tant que vous êtes dans une logique polythéiste, le fait d'avoir un choix monothéiste, c'est simplement un particularisme. C'est une particularité. Et d'ailleurs, ce que rappellent quand même les archéologues, heureusement israéliens, parce que sinon, et un certain nombre d'historiens israéliens, Israël, Finkelstein et des gens comme ça, c'est que pendant un certain temps, les Hébreux, ce ne sont pas encore les Juifs, sont polythéistes. Yahvé a une compagne. Bon, donc c'est très progressivement, au long des siècles, à partir grosso modo du 7e, 6e siècle avant notre ère, que tout ça va se caler sous une forme monothéiste. Et par ailleurs, la géopolitique, je parle de géopolitique au début du livre, j'en parle à la fin, parce que évidemment aujourd'hui, c'est la géopolitique autour de l'État d'Israël qui est le point nodal de la haine du juif dans beaucoup de régions et beaucoup de milieux. Mais déjà dans l'Antiquité, vous avez une lecture géopolitique qui n'est pas fondamentalement une lecture en effet religieuse, qui consiste à dire que les Hébreux, puis les Juifs, se retrouvent dans une zone, qu'on appellera plus tard le Moyen-Orient, qui est en permanence un lieu de combat entre ce qu'on pourrait presque appeler des impérialismes. Oui, des logiques impériales. Jérémie, le prophète Jérémie, c'est un leader d'une des tendances. Parce qu'il faut que ce petit peuple, qui n'a pas la force d'être lui-même vraiment impérial, choisisse son camp à un certain moment entre les Égyptiens et les Babyloniens, par exemple. Pendant un bon bout de temps, c'est ça, le choix. Et quand, par exemple, les Perses deviennent hégémoniques, que, par exemple, ce qu'on a oublié, ils occupent l'Égypte, eh bien, les Juifs participent de la domination perse en Égypte. Donc, l'idée que les Juifs auraient été toujours regardés de travers parce qu'ils étaient monothéistes, et pour diverses raisons, c'est anachronique, c'est-à-dire que c'est un regard qui est déterminé par d'abord la manière dont la Bible nous raconte l'histoire, où il y a effectivement de mauvais princes, etc., mais il faudrait quand même expertiser. Il y a un certain nombre de passages qui s'apparentent au roman oriental, on dit certains analystes.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ?
Vous prenez le livre des Maccabées, qui est dans l'Ancien Testament le dernier livre historique. Vous voyez bien qu'il y a une révolte juive contre un méchant prince hellénistique, mais ce n'est pas du tout la règle, c'est justement l'exception. Parce que cette famille hellénistique qui, épisodiquement, va persécuter le peuple juif, en tous les cas, ce qui reste une sorte d'autonomie politique juive, eh bien, c'est tout simplement un moment où le roi, qui est Antiochos IV, c'est le site, peu importe, s'est engagé dans une politique qui durcit son régime. Et ce n'est pas simplement les juifs qui en sont victimes, mais aussi un certain nombre d'autres religions locales. Donc, il n'y a pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas, jusqu'à l'apparition du christianisme, de questions juives. Il y a des rapports de force, mais prenons la destruction du temple de Jérusalem, 70 de notre ère. C'est complètement absurde de dire, on a compris, les Romains ne pouvaient pas admettre ces monothéistes, etc. Peut-être même qu'ils étaient déjà antisémites, mais c'est complètement absurde. Qui est-ce qui fait le siège de Jérusalem ? C'est le futur empereur Titus. Avec qui vit-il à l'époque, j'allais dire tous les soirs, c'est Bérénice, donc une princesse juive, héritière de toute une tradition princière juive. C'est-à-dire qu'il est associé aux élites juives qui viennent d'être renversées à Jérusalem par des radicaux, pour ne pas dire des extrémistes, les zélotes. Donc c'est une affaire, j'allais dire, politique. D'ailleurs, il suffit de voir le comportement de Ponce Pilate dans les évangiles. Le problème, c'est le maintien de l'ordre. Je veux dire, Ponce Pilate, il ne va pas intervenir dans ces querelles qui le dépassent complètement. Mais en revanche, il voit bien que là, il y a trouble dans l'ordre public. Et là, il y a trouble dans l'ordre public avec des anti-romains qui ont pris le pouvoir à Jérusalem contre la famille de Bérénice. Et le plus fort, c'est que le généralissime des troupes de Titus, c'est un juif, ce qu'on ne dit jamais, Tibère Alexandre. Sans parler de l'historien qui nous raconte ça,
Flavius Joseph,
qui est un radical juif retourné, repenti, comme on dirait en Italie, des années de plomb. Donc, il faut être un petit peu plus subtil. En revanche, la thèse que je défends, c'est qu'il y a une question juive, ce qui est à mettre toujours avec des guillemets, il y a une question juive à partir du moment où il y a christianisme, non pas à cause de la distance, mais à cause de la proximité.
Mais alors,
puisque, évidemment,
change,
le christianisme sort du judaïsme. Mais ça veut dire qu'il va y avoir, puisqu'on parlait de tragédie tout à l'heure, Priscille, il y a une tragédie à répétition qui commence un peu avec Saint Paul, mais surtout avec les pères de l'Église, en particulier les pères de l'Église orientale, Saint Jean Chrysostome, etc. Ensuite, qui va se reproduire quelques siècles après avec Mahomet, et qui va même se reproduire avec Luther à la fin de sa vie. Luther qui a écrit un premier texte qu'on pourrait qualifier de philo-sémite, là aussi avec un peu d'anachronisme, enfin, en tous les cas, que Jésus est né juif, ça c'est quand même fondamental, mais qui, à la fin de sa vie, tourne très anti-juif. Et pourquoi ? Parce que trois fois, c'est le même reproche, mais qui peut être susurré ou qui peut être vraiment explosant, ces juifs sont vraiment incompréhensibles, voire même diaboliques. Ils n'ont pas compris quel était le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'ils se convertissent au christianisme, puisque la prophétie est advenue. Le Messie est là. Et ça va recommencer avec Mahomet. Pourquoi est-ce que les tribus juives assez puissantes, en particulier de Médine, ne se convertissent pas alors que le prophète a clos le chapitre de la fondation ? On sait bien que maintenant, la résolution de toutes ces contradictions, ça sera au sein de l'islam. Et quant à Luther, alors là, c'est encore plus complexe et en même temps tragiquement simple. C'est-à-dire que je défends l'idée dans ce livre, qui était moins claire avant que je ne l'écrive d'ailleurs, que c'est parti des protestants. C'est-à-dire la tolérance à l'égard des juifs, il fallait bien qu'elle partie des non-juifs. Sinon, je vous signale qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison que la condition des Juifs ait changé. Parce qu'il n'y a pas eu de Spartacus juif. Hein. Il n'y a pas eu une révolte juive au XVIe ou XVIIe siècle. Donc ça a changé dans la tête des non-Juifs. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ça. Hein. C'est fondamental de faire cette remarque. Et ces non-Juifs, c'était des protestants, fondamentalement. C'était plutôt des calvinistes que des luthériens, mais je ne veux pas mettre les luthériens en dehors du champ. En tous les cas, chez Luther, il y a une crispation qu'on ne va pas retrouver chez Théodore de Bèze, etc., même chez Calvin, quoique il y a quelques phrases chez Calvin, bon, pas très sympathiques pour les Juifs, mais c'est rien à côté de ce que dit Luther, c'est que le protestantisme est un grand retour à la parole du Sauveur sous sa forme la plus pure, donc en particulier à l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que le Nouveau Testament passe à l'as, non. Mais les protestants, ils se distinguent très clairement, au moins à cette époque-là, les choses ont changé ensuite, des catholiques par leur dimension vétérotestamentaire, quand même. Donc, Luther est ulcéré, mais ulcéré et faible, en disant, mais comment ces Juifs ne comprennent pas qu'ils doivent devenir protestants? Donc, on a eu trois fois la même tragédie.
Et pour bien vous comprendre, nous ne sommes plus du tout sur des raisons géostratégiques, de domination, de rapports politiques, mais sur des questions théologiques, idéologiques. Et c'est ça la grande différence.
Oui, parce qu'il y a une sorte de sublimation, une sorte de quintessence. Car à partir du moment où les chrétiens prennent le pouvoir, on va résumer ça à Constantin, mais c'est bien plus compliqué, une législation anti-juive se met en place, mais qui va se subtiliser peu à peu. Par exemple, ce qui est très frappant, c'est que le premier code systématiquement anti-juif, c'est le code d'un roi wisigothique, donc un roi successeur de l'Empire romain, qui était arien avec un I, pas avec un Y, l'arianisme avec un I était une, alors, entre guillemets, hérésie, en tous les cas, c'était une tendance chrétienne qui était assez vétérotestamentaire, ça c'est clair. Et il devient catholique, il fait du zèle, et il systématise des mesures qui ont commencé à être prises à l'époque de Constantin et de ses successeurs. Je signale au passage que le dernier empereur polythéiste, Julien, dit par les chrétiens l'apostat, a consacré une partie de sa faible énergie pendant 3-4 ans de règne, très court, à commencer à reconstruire le temple de Jérusalem. Donc la logique polythéiste, c'est surtout au moment où les chrétiens s'installent dans la société, ils ne sont pas encore complètement au pouvoir, c'est de s'allier avec les Juifs. Hein. C'est de s'allier avec les Juifs. Bref, tout ça fait que se met en place progressivement entre le 4e et, je dirais, le 4e et 8e, 9e siècle, une législation d'abord chrétienne, mais dont on va retrouver des traces avec des nuances dans l'islam. Par exemple, contrairement à ce qu'on dit souvent, est-ce que l'islam a été plus tolérant à l'égard des Juifs? L'islam a été souvent très politique, l'Empire ottoman, c'est ça, hein, qui est plutôt un bon souvenir relativement pour les Juifs, c'est-à-dire qu'ils étaient moins persécutés l'Empire ottoman qu'en face. Mais malgré tout, qui va inventer, par exemple, le signe distinctif, l'ancêtre de l'étoile jaune? Ce sont les musulmans. Hein. Donc malgré tout, on peut dire que les deux monothéismes ont été quand même d'accord pour mettre au minimum en lisière les Juifs, pour entre autres, ce qui est terrible, leur réserver les activités les plus négatives, en particulier le rapport à l'argent, bon, je vais pas insister là-dessus. Et c'est pour ça que vous dites à juste titre, Priscille, qu'il y a une sorte de quintessence dans la théologie, mais c'est qu'il se passe à peu près 1000 ans, même plus de 1000 ans, où se stratifie toute une mythologie anti-juive. Le juif, c'est l'argent, c'est l'usurier, etc. Mais c'est aussi un personnage tellement diabolique qu'il sacrifie des enfants, etc. Et tout ça, ça permet de nourrir l'exécration à l'égard des Juifs, surtout dans des périodes extrêmement tendues comme la première croisade, etc. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? C'est qu'on retrouve au XXe ou au XXIe siècle une partie de cet héritage qui a été filtré par ce que j'appelle le deuxième âge après cet âge d'anti-judaïsme religieux et monothéiste, l'antisémitisme athée. C'est-à-dire qu'avec le monde moderne, Dieu commence à s'effacer à l'horizon aux yeux de certains en tous les cas, eh bien on peut continuer à détester les Juifs en étant athée.
Alors nous allons y revenir, mais restons un petit peu sur ces premiers siècles chrétiens. Vous dites que se met en place un triangle d'acteurs. Il y a à la fois le peuple, l'intellectuel et l'autorité politique qui vont se nourrir les uns les autres dans la haine du Juif. Comment fonctionne ce triangle?
Alors bien entendu, quand je parle d'intellectuel, c'est en assumant l'anachronisme sur le modèle de Jacques Le Goff qui a osé dès les années 50 intituler un ouvrage « Les intellectuels au Moyen-Âge ». Disons que vous avez des clercs, vous avez des personnes qui ont une légitimité intellectuelle, d'inspiration évidemment religieuse dans le monde, alors aussi bien chrétien qu'islamique, hein, qui peuvent être surpris en flagrant délit, c'est pas systématique du tout, hein, d'excitation à la haine du juif. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à l'occasion, par exemple, de la première croisade, de quelques autres croisades qui vont suivre, les pogroms, là aussi c'était un anachronisme de dire pogrom, puisque ça nous vient de la culture orthodoxe russe du 19e siècle, enfin les pogroms anti-juifs, les émeutes anti-juives, sont souvent justifiés et animés par des clercs qui font un peu penser à ce qu'on retrouvera au 19e siècle avec des gens comme Édouard Drumont. Vous voyez, ça peut paraître anachronique, mais ce sont des gens qui ont une maîtrise rhétorique et qui savent parler au peuple. Qui savent parler au peuple et leur dire mais regardez, ça vient de chez eux là, hein, donc tirez-en les conclusions. C'est pour ça que dans les ordres mendiants, hein, alors les franciscains à un certain moment, hein, les dominicains, alors les dominicains avaient une version plus intellectuelle de tout ça, mais les franciscains se sont souvent retrouvés comme excitateurs de, pas toujours de massacres, mais de mouvements anti-juifs, hein, ça c'est clair. J'ajoute que parmi ceux qui au Moyen-Âge peuvent bénir des formes de croisades internes, se retrouvent quelques juifs convertis. Donc, il y a quand même une mythologie qui s'installe, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors ça aussi, c'est une, non pas une des découvertes, mais une des constatations que j'étais obligé de faire en écrivant ce livre, que vous n'avez pas la preuve absolument évidente qu'il y aurait un sens de l'histoire en ce qui concerne la question juive, c'est-à-dire qu'on aurait commencé par une période particulièrement pénible, et puis à partir du... Alors, moi, je fais commencer ça au XVIe siècle, hein, dans les Provinces-Unies, comme par hasard, Amsterdam et compagnie, 17e siècle, le Royaume-Uni, 18e siècle, siècle des Lumières, puis 1791, le fameux décret qui tolère et même libère et émancipe les Juifs. Bon, on pourrait se dire, ben voilà, il y a un sens de l'histoire. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'abord, il y a des hauts et des bas au Moyen-Âge. Par exemple, chez les musulmans, vous avez des périodes de tolérance qui sont assez largement géopolitiques. Hein. Les Ottomans protègent d'autant plus les Juifs que les Juifs sont... chassés par les Espagnols. Donc, on comprend bien que...
Ils font la promotion de cette politique par effet de contraste avec l'Occident.
Tout à fait. Mais de la même façon, il faut quand même voir que la deuxième époque, sur laquelle donc on va revenir dans un instant, la période où on passe à l'antisémitisme, vous avez en même temps, et l'un éclaire l'autre, une progression de la tolérance et une mutation extraordinairement dangereuse pour les Juifs, de la haine, c'est-à-dire effectivement la cristallisation de l'antisémitisme, ça se passe en même temps. Ça va contre l'idée que, oui, on a compris, il y avait une période noire et puis on en sort. Mais écoutez, la deuxième période qui commence si libéralement se termine par la Shoah.
Alors justement, cette deuxième période utilise un fond qui existe déjà et elle le revisite avec de nouveaux éléments. Quels sont ces nouveaux apports qui vont alimenter la judéophobie?
Alors, de toute façon, les strates antérieures ne disparaîtront jamais, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, Priscille, ensemble, il y a toujours, à travers le monde, et c'est diffracté différemment suivant qu'on est dans les pays de culture chrétienne, culture musulmane, etc., vous avez toujours un substrat d'anti-judaïsme d'origine religieuse. Par exemple, les frères musulmans vont relayer des vieilles traditions. Ça, c'est fondamental.
Avec une narration.
Mais vous avez aussi des éléments nouveaux. Bon, on parlait tout à l'heure de cette image de l'usurier juif. Eh bien, dans une société qui va s'ouvrir à la question sociale, comme on dira, puis au socialisme, eh bien, l'usurier juif alsacien, il deviendra Rothschild. Et vous n'avez plus besoin de Dieu, là. Vous pouvez détester Rothschild pour d'autres raisons. Ce qui fait que, dans la pensée traditionnaliste, vous aurez le maintien de ce type de considération. Mais dans une pensée moderne, qui est le socialisme, pour ne prendre que celle-ci, on pourrait dire beaucoup de choses sur les anarchistes, voire sur certains libéraux, mais fondamentalement chez les socialistes, vous avez une assez forte prégnance de la haine du juif, surtout dans ce qu'on a appelé le socialisme utopique, ou en tous les cas non scientifique sous le regard des marxistes, puisqu'on a des traces évidentes de haine du juif chez Proudhon, chez Fourier. Et puis alors, dans une famille intéressante, parce qu'elle est le chaînon manquant entre les jacobins de la Révolution française et les bolcheviques, qui est le blanquisme. Et dans l'entourage des fondateurs du nationalisme moderne, vous avez un certain nombre de personnes qui viennent du socialisme et qui, d'une certaine façon, quand leurs expériences, alors la Commune de Paris d'abord, pour les blanquistes, mais aussi le boulangisme, parce qu'il emprunte des éléments qui viennent de l'extrême droite, traditionnelle et de l'extrême gauche, y compris des communards. J'ai repéré certains communards qui sont absolument antisémites. Hein.
Vraiment ?
Ben oui. Le 19e siècle a inventé la notion de lutte des classes, entre parenthèses, c'est un libéral qui a inventé la formule, c'est pas Marx, c'est Guizot. Mais pour Guizot, évidemment, le vainqueur final, c'est pas le prolétariat, c'est la classe moyenne, ce qu'il appelle la classe moyenne. Mais on a inventé la lutte des races. C'est absolument contemporain, c'est-à-dire que ces principes de classification qui n'ont plus besoin de Dieu, alors là, existe Dieu, hein. C'est la science. La science, avec un grand S, nous dit, il y a des races. Et ben, n'y aurait-il pas une race juive ? Et à ce moment-là, vous avez cette sorte de tour de passe-passe qui consiste à dire, eh bien, les langues sont la preuve de l'existence des races. Et évidemment, la notion de sémite, antisémite vient de ce que on applique la science allemande, bien sûr, la grande science allemande philologique, qui a nourri des gens comme Renan, etc. Donc la modernité scientifique du 19e siècle, elle vient d'Allemagne très souvent. Eh bien, cette science philologique, cette science linguistique, elle va servir entre autres à dire il y a une race sémite. Il y a des sémites qui sont de toute éternité en lutte contre une autre race qui serait par exemple la race aryenne. Et c'est très intéressant de voir comment tout ça va justifier une haine du juif qui n'a plus besoin d'une référence à Dieu.
Nous sommes aussi au siècle de Darwin et peut-être dans une perspective de lutte des races et que la meilleure gagne.
Ah, tout à fait. Et là, c'est la science. Hein, parce qu'effectivement, on peut... C'est une lecture. Hein. Le darwinisme social n'a pas été reconnu par Darwin lui-même, par beaucoup de darwiniens qui ont considéré que c'était une extrapolation scandaleuse. Mais ce qui compte, c'est que ça marche dans certains milieux et que pour notre objet qui est... Mais alors, cette haine du juif, elle aurait dû disparaître progressivement par la laïcisation de la société. Eh bien non. Eh bien non. Et la géopolitique joue son rôle parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Hitler n'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Je veux dire, c'est un Austro-Hongrois. Comme le disent malicieusement, voire méchamment, certains Allemands, les Autrichiens sont extraordinaires. Ils ont fini par faire croire au monde que Beethoven était Autrichien et que Hitler était Allemand. Donc la pensée d'Hitler, elle s'explique par l'Europe centrale, hein, si vous voulez. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a déjà, au moment où dans l'entre-deux-guerres émerge l'antisémitisme dans sa version nazie, on a déjà des configurations intellectuelles qui sont des configurations qu'on connaît aujourd'hui à l'époque de cet anti-sionisme et antisémitisme si répandu dans certaines régions et certains milieux. Par exemple, les protocoles des sages de Sion, qui est quand même un best-seller encore aujourd'hui, plus que jamais même antisémite, qui est le pur produit de l'antisémitisme orthodoxe russe. Il y a d'ailleurs des juifs convertis qui jouent un rôle encore dans cette histoire. Les protocoles des sages de Sion vont se retrouver traduits dans le monde arabe, dans l'entre-deux-guerres, à l'époque où se constituent, comme par hasard donc en Égypte, les frères musulmans. Et aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que dans la charte du Hamas, vous avez des références au protocole des sages de Sion. Donc vous avez un arsenal intellectuel renouvelé, modernisé, complotiste. Alors l'idée de complot juif, elle existait au Moyen-Âge, version chrétienne. Mais on n'a pas besoin de conserver la référence au christianisme ou à l'islam pour que ça marche.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous dites qu'il y a deux lignes, celle de la narration et celle de l'argumentation.
Oui, mais parce que, alors là, ça vaut pour toutes les idéologies. Les idéologies peuvent se présenter comme argumentation intellectuelle. Alors évidemment, le monde moderne, avec la science, un grand S, est très porté sur la chose. Mais en même temps, on ne touche à la sensibilité d'un peuple, d'un public, d'une société, que si on joue sur la narration. Hein. Mythos face à logos, c'est ça. Le mythe, il ne faut quand même pas l'oublier, le mythe, ce n'est pas l'illusion ou quoi que ce soit, blablabla. Non, le mythe, c'était une narration. Une narration significative et signifiante. Elle vous explique d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez. C'est fondamental. Et ça touche à ma sensibilité. On raconte des histoires. Évidemment, on raconte des histoires, par exemple, atroces sur les Juifs. J'avais été très impressionné en travaillant il y a quelques années sur la période de l'occupation. Il y avait un journal nazi, on peut le dire, français, qui s'appelait Le Téméraire, et qui reprenait les plus vieux récits anti-juifs du Moyen-Âge. Il y avait un numéro sur Barbe Bleue, et puis vous tourniez la page et vous aviez les crimes rituels juifs. C'était destiné en France, dans les années 42-44, à un public d'adolescents. Oui. En pleine année 1940, on retournait aux fondamentaux. Donc, bien entendu, la narration, l'émotion, quand même. Même la science politique a mis du temps, quand même, ça a commencé dans les années 1980-90, à intégrer l'émotion dans ses perspectives. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'émotion. Mais évidemment, l'émotion n'a pas attendu qu'on en parle pour être là.
Justement, dans les années 30-40, en Europe, comment les discours anti-juifs et puis les législations anti-juives se développent-elles et ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre ?
Parce qu'en toute chose, il faut tenir compte, hein, c'est mon mantra depuis longtemps, même avant que je publie « Qu'est-ce qu'une nation ?», il faut tenir compte des cultures nationales. Il est évident que les Hongrois vont avoir une certaine culture qui va les amener à être effectivement antisémites, mais avec des formes de protection relative des Juifs, sous le régent Horthy, par exemple. Et quand les vrais nazis in extremis en 44 Hongrois prennent le pouvoir, alors là, tout s'aggrave. Donc, les cultures nationales vont jouer un rôle. Mais au total, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est de voir que la centrale antisémite la plus forte, on peut dire centrale antisémite parce que regardez Mussolini, Mussolini n'est pas antisémite au départ. Le premier intellectuel fasciste, s'il faut quand même le savoir, d'abord c'est une femme, d'autre part elle est juive. C'est Margherita Sarfatti, la maîtresse de Mussolini, qui écrit le premier grand texte fasciste qui est Dux, une sorte d'agiographie du Duce. Donc Mussolini n'est pas foncièrement, il peut être raciste, xénophobe, par nationalisme, par ailleurs, d'accord, il n'est pas le seul hein, à l'époque, il n'est pas foncièrement antisémite, eh bien il termine antisémite. C'est-à-dire que l'hégémonie passe à Hitler hein, dans les années 30. Eh bien, ce qui est quand même très impressionnant, c'est de voir que vous avez affaire à une société qui est industrialisée, qui a un niveau d'éducation extrêmement élevé, peut-être un des plus élevés du monde, et qui verse. Alors, elle verse, c'est-à-dire qu'elle donne le pouvoir à un certain Adolf Hitler, qui met en place immédiatement une politique radicalement antisémite jusqu'à l'extermination. En tous les cas, je maintiens quand même que cette période, qui reste une période de libération, à partir en particulier du 18e, du 19e siècle, en France, en Prusse, en Angleterre évidemment, etc., se termine par Auschwitz. C'est pour ça qu'une des grandes dates de l'histoire de l'humanité, c'est l'ouverture des camps.
Qui fait basculer ouais. Les représentations.
Oui, la conscience universelle est quand même, alors là pour le coup, traumatisée, on peut dire, traumatisée par l'ouverture des camps.
Par les images, beaucoup.
Oui, les images, et puis les corps. D'ailleurs, en ce moment, il semble qu'il y ait tout un débat sur les massacres en Ukraine, on verra. Mais là, on touche du doigt la conséquence ultime d'une politique de haine d'une communauté, en l'espèce de la communauté juive. Mais ce qui me frappe, c'est qu'évidemment, dans un troisième temps, alors que j'avance l'hypothèse qu'il y a, qui n'est pas très originale d'ailleurs, qu'il y a, après la Seconde Guerre mondiale, une belle époque. Une belle époque judéophile. Je parle de 30 glorieuses judéophiles. On pourrait multiplier les exemples, voir la curiosité pour la culture juive sous toutes ses formes, les expositions, les éditions de textes, regardez la popularité des grands écrivains austro-hongrois juifs. Bon, Marcel Proust. Donc il y a un moment, quoi, une embellie, mais qui concerne l'Occident. Et c'est là que la géopolitique intervient, parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? 1948, État d'Israël.
Alors, c'était. Haine du juif subsiste dans différents endroits. L'un de ceux dont on ne parle pas nécessairement très souvent, mais qui apparaît très présent dans votre livre, c'est l'URSS.
C'est-à-dire que si on pensait qu'un État, avec son programme, son idéologie, ses fondateurs, Marx et quelques autres, une bonne partie des élites bolcheviques qui étaient d'origine juive, pouvaient être vaccinées contre l'antisémitisme, eh bien, oui, on l'aurait dit, on le pensait. Et d'ailleurs, une partie de la propagande contre les communistes était antisémite en disant « mais ce sont les juifs qui sont derrière tout ça ». Eh bien, quand c'est Staline, qui n'est pas juif, quand c'est Staline qui est à la manœuvre, on se rend compte, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en plus, bon, complot des blouses blanches, procès des démocraties populaires, que sous l'argument du sionisme, qui peut se comprendre dans une logique nationaliste, parce que Staline est quand même l'homme qui est encore aujourd'hui auréolé, en particulier par M. Poutine, dont c'est quand même un des grands héros, comme l'homme de la grande guerre patriotique. Donc il y a cette dimension-là. Et ceux qui auraient une sorte de légitimité socialiste, mais qui la compromettrait en étant, par exemple, partisan de l'État d'Israël, bon, peuvent être considérés comme des traîtres à la patrie soviétique, parce qu'il y a une patrie soviétique. Mais au-delà, il y a l'idée quand même que les Juifs sont parmi les meneurs du capitalisme international, en particulier états-unien. Donc on glisse peu à peu vers des situations extrêmement ambiguës. Il ne s'agit pas de dire que tout le système soviétique est antisémite, mais il s'ouvre à l'antisémitisme, ce qui sera confirmé, évidemment, dans l'accession de régimes, alors qu'ils ne sont pas forcément marxistes, quoique parfois très fascinés par le modèle marxiste, en tous les cas socialistes, nationalistes, en particulier au Moyen-Orient, à l'époque de Nasser, etc. Le Baas syro-irakien. Évidemment, le mouvement palestinien.
Mais nous y sommes parce que, avec la création de l'État d'Israël, nous avons un argument supplémentaire, pourrait-on dire, pour cette judéophobie.
Tout à fait. Et effectivement, cette fois-ci, la géopolitique devient déterminante. Et je ne vais pas, évidemment, mettre le doigt dans l'engrenage, puisque ça suscite des réactions diverses et variées, de savoir à quel moment et avec quel compteur Gégère on peut mesurer le passage de l'antisionisme au antisémitisme. Bien subtil serait celui qui dirait « Ah, là, on quitte l'antisionisme. » Mais il est clair que les deux se font à la courte échelle. Et je signalais tout à l'heure le cas du Hamas, quand même. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, vous n'avez plus l'argument du socialisme arabe, dont je répète qu'il a été clairement anti-israélien, voire anti-juif. Mais quand on quitte cette perspective-là et qu'on arrive dans une perspective où c'est l'islamisme qui est hégémonique, ce n'est plus le socialisme laïque, voire athée, façon basse, eh bien, on se rend compte que à ce moment-là, on peut puiser dans la mythologie anti-juive musulmane sans difficulté, puisqu'elle est d'une grande richesse aussi, qui vaut à peu près la richesse de la mythologie anti-juive chrétienne. Et on en est là aujourd'hui avec un État d'Israël qui a poursuivi sa logique identitaire, lui aussi. La fameuse loi de 2018 sous Benjamin Netanyahou, qui dit pour la première fois clairement, alors que ce n'était pas dit clairement, contrairement à ce qu'on pensait, que Israël est un État des Juifs. Alors qu'est-ce qu'on fait des non-Juifs dans ce cas-là? Bon, donc on est dans une situation extrêmement bloquée aujourd'hui. Et on peut penser que, on va l'appeler l'antisionisme, sert de ciment. Parce que dans une perspective complètement géopolitique, et Dieu sait si actuellement on est féru de géopolitique, la géopolitique est entrée dans les programmes des lycées en France, à mon avis, de façon tout à fait justifiée, à côté de l'histoire de la géographie. Si on garde un point de vue géopolitique, eh bien, ces régimes politiques, égyptiens, jordaniens, syriens, etc., iraniens, bien entendu, n'ont aucune solidarité idéologique, sauf la haine du juif, ou en tous les cas, la haine, disons, de l'État d'Israël, qui peut quand même conduire à la haine du juif. Ça, c'est un ciment.
Juifs qui, d'ailleurs, ont disparu de ces territoires.
Oui, d'ailleurs, la haine sans la haine du juif sans juif, on a connu Pologne, etc., évidemment. C'est d'ailleurs assez vertigineux. C'est ça qui presque impressionne le plus du point de vue d'un historien. Prenez l'actuel Irak, la Mésopotamie. Depuis une très haute antiquité, Babylone était l'autre grande capitale juive. Et en termes de Talmud, c'est le Talmud de Babylone qui est le plus important que le Talmud de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est ça le plus impressionnant. C'est la purification ethnique, mot qui a été inventé, il faut le savoir, par des balkaniques à propos des Balkans. Elle a donné à plein. Et elle s'est traduite par une disparition des sociabilités communes à ces différentes cultures. Et on en est là aujourd'hui.
Et chez nous, en Occident, est-ce que finalement nous ne passons pas de haine collective à des haines plus personnelles à l'ère de l'individualisme?
Vous avez donné la réponse, Priscille, l'individualisme. C'est-à-dire que c'est quand même le grand moteur de l'histoire moderne. Ça ne résume pas tout, mais à mon avis, si on prend la clé de l'individualisme, on comprend beaucoup de choses. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui pourrait expliquer ce développement de l'individualisme. Pour moi, c'est un individualisme de masse, de surcroît. Les réseaux sociaux, c'est de l'individualisme de masse. Ce sont les tribus, comme disait un sociologue qui s'appelait Maffezoli, etc. Donc, dans cette situation, il est évident que l'Occident peut être sensible à une idéologie anti-juive. Par exemple, l'idée de complot juif, d'après ce qui remonte des instituts de sondage, est loin d'avoir disparu en Occident. De même que le négationnisme à l'égard de la politique d'Hitler est loin d'avoir disparu. On a vu des convergences dites rouge-brun sur la question du négationnisme. Que penser du rôle de Noam Chomsky, qui est pourtant l'exemple même de la gauche radicale chez les juifs américains, mais qui trouve des excuses à Robert Faurisson, etc. Donc il est clair qu'il y a des convergences actuelles. J'avais été frappé du pourcentage de entre guillemets, gilets jaunes, qui répondaient que d'après eux, il y avait un complot juif. Donc c'est tout à fait moderne, cette idée qu'il y a un pouvoir juif excessif qui tire les ficelles. Et ça, on le disait il y a 100 ans, mais La question, c'est qu'on le dit 100 ans plus tard.
Dans votre essai, vous dites qu'il y a bien un début de la haine du juif et vous le datez au 1er siècle du christianisme, mais pas nécessairement de fin. Pourquoi ?
Mais parce que je ne vais pas me forcer à croire qu'avec cette histoire, qui n'est pas cyclique, certes, mais qui est quand même répétitive, quand on pense que ça y est, c'est bon. Et le meilleur exemple, c'est effectivement la deuxième période, c'est-à-dire quand même, à partir du calvinisme, on peut dire que voilà, on va comprendre. Eh bien, on en arrive à des crispations qui peuvent évoquer des crispations actuelles, à savoir donc l'épisode nazi et les alliés des nazis dans plusieurs cultures nationales d'Europe. Donc, je pense que ça rend extrêmement prudent sur une prophétie optimiste. Et pour être clair, tant qu'il n'y a pas, alors je vais jouer l'idéologue de Café du Commerce, mais tant qu'il n'y a pas deux États, respectivement israéliens et palestiniens, comment voulez-vous que, sur ce plan-là, les aliments à la haine du juif, et pas simplement de l'israélien, ne soient pas sans cesse remis sur la table ? Puisque vous aurez la souffrance, vous aurez la colère, ces fameuses figures dont on parle tellement aujourd'hui, souffrance et colère. Mais souffrance et colère, ça ne va pas simplement dans un sens, et même assez rarement dans un sens humaniste, conciliant, démocratie participative. Souffrance, colère, humiliation. Humiliation. C'est très important pour comprendre l'idéologie nazie, l'humiliation de 1918. Enfin bref. Eh bien, tant que le ressentiment sera là, le juif figurera parmi d'autres comme bouc émissaire.
Dans votre esprit, c'est un cas unique, le cas de la haine du juif, ou un modèle pour penser d'autres types de haine ?
C'est un modèle, mais qui occupe une importance symbolique très forte. Et je crois, et c'est ça le tragique, précisément à cause de la proximité des deux grandes religions monothéistes avec les sources juives. Je pense que cette proximité s'est révélée problématique, voire même inextricable.
Eh bien, un grand merci, Pascal Horry. Je rappelle donc le titre de votre livre, « De la haine du juif, essai historique chez Bouquin ». Et puis, un deuxième, ce recueil de textes, « Ce côté obscur du peuple » chez Bouquin également. Merci et à bientôt.
Merci à vous.